Gustave Geffroy. Hermine Gilquin. Chapitre 1. La ferme des Gilquin était bâtie sur un plateau qui est une légère surélévation du sol de la plaine de Vendée. Au sud-ouest, on apercevait, pendant le jour, la couleur lointaine et changeante de la mer. Le soir, on voyait briller la lumière tournante du phare de l'île de Ré. Ce pays, que l'on pourrait supposer sans caractère, sans pittoresque, illimité et monotone, avec des horizons toujours semblables, vers lesquels s'en vont des champs tous pareils, est au contraire pourvu d'une beauté singulière et admirable. Il n'a pas besoin du mirage de la mer pour avoir son infini et sa poésie. Sa terre est presque nue, bien qu'elle soit décorée, comme partout, de la magie des saisons. Mais elle laisse voir dans son ampleur le ciel, avec ses nuages et ses étoiles. Le paysage devient alors grandiose. Sur cette vaste étendue, les fumées de quelques toits décèlent le groupement d'un hameau caché dans un massif d'arbres. Les jours de soleil, ces enclos de verdure sont des oasis d'ombre, des asiles de fraîcheur, des refuges au milieu de la fournaise. Pourtant, sur la plaine comme sur la mer, même quand le soleil du midi, suspendu droit au-dessus de la terre, est une boule de feu qui laisse déborder et couler ses flammes, une brise légère et vive traverse toujours l'étendue, va et vient, ainsi qu'un génie capricieux de l'espace. Souvent, dans l'éblouissante lumière et la chaleur meurtrière, un grand mouvement d'air, venu de l'océan, assaille l'immense plaine, courbe les feuillages, incline les moissons, car l'atmosphère a aussi ses vagues envahissantes, ses marées victorieuses. En été, la plaine est un seul champ planté de blé, d'avoine, d'orge, de luzerne. Elle bouge tout entière d'une extrémité à l'autre, changée en une étendue liquide, nuancée comme l'eau sous le ciel, parfois tachée de noir par l'ombre d'un lumineux nuage. Sur cette molle et ondulante surface se dressent les clochers, les toits, nettement dessinés à l'horizon, avec les mêmes lignes rigides que les mâts et les cheminées des navires, que les voiles triangulaires des barques. L'impression singulière et saisissante de la plaine, c'est le silence. Même l'été, lorsque les champs sont animés, que la terre se montre habitée. Les hommes, les femmes, sont à la tâche, courbés sur le sol, fouillant la terre de leurs outils qui deviennent des mains et des griffes de fer. Le travail s'accomplit avec une rage méthodique. On n'entend pas de paroles, rien que le « han » des poitrines, le rauque sifflement des respirations. Par moments, un homme se dresse, remet debout avec effort son corps cassé en deux. Appuyé sur son hoyo, comme un soldat sur son arme, il lève un visage congestionné et hâlé, où luisent deux yeux farouches. Il contemple tout ce qui l'entoure, cherche ses ennemis et ses amis. Cette terre noire va-t-elle lui rendre en pousse verte, en tige robuste, tous les soins qu'il lui donne en s'ankylosant les membres, en se crevant de fatigue? Les plantes parasites vont-elles tout dévorer? Les fleurs inutiles du bleuet, du coquelicot, du liseron et du navet sauvage vont-elles envahir son blé, son orge, son seigle, en riant comme des folles? Va-t-il assister, enragé et impuissant, à cette corruption de son bien par le dévergondage imbécile de la nature? Et ces nuages qui s'avancent, venant du côté de la mer, majestueuses flottes aux voiles blanches, vont-ils s'arrêter et crever juste au-dessus de son champ, laissant tomber leur pluie bienfaisante, les larges gouttes qui sonnent aux oreilles du paysan ravi, du même bruit que des écus de 5 francs, et même que des pièces d'or sans alliage. Ou bien est-ce le vieil ennemi qui rôde toujours dans l'espace, l'orage brutal qui va tout hacher, tout coucher par terre, avec les mitraillades de sa grêle et les coups de canon de son tonnerre? L'homme pousse un soupir et se remet à la besogne. Un autre, plus loin, se lève aussi du champ où il était agenouillé. Celui-ci regarde plus près de lui, par-dessus la barrière qui le sépare d'un herbage. Il n'a pas de parents plus choyés, mieux chéris dans son cœur, que ces animaux qui paissent parmi l'herbe et la luzerne. Il croise ses regards inquiets avec les regards placides des vaches, qui ont, en même temps que lui, tourné la tête. La blanche et la rousse paraissent satisfaites, mais la noire est triste et bave, la bouche ouverte. Elle n'a pas mangé encore, et ne paraît pas s'apercevoir que son veau la bourre de coups de tête pour s'abreuver de son lait maternel. Si celle-là tombait malade, si on la trouvait enflée et morte demain matin dans l'étable, et si son veau gagnait sa maladie et s'en allait avec elle, quel désastre! Et comment payer le prochain fermage? Il n'est pas besoin de parler quand les pensées sont si tenaces et si vives, s'acharnent de telle façon sous les crânes chauffés par le soleil. Tout à l'heure seulement, quand la cloche de l'Angélus sonnera le déjeuner, à l'ombre de la haie de tétard qui clôture le champ, les paroles coutumières seront échangées, les préoccupations habituelles se feront jour. La bouche pleine de pain et de lard, ils se communiqueront leurs réflexions, 1000 fois ressassées sur leurs travaux et sur les saisons. Ils exprimeront leur méfiance et leurs doutes au sujet des profits possibles. Ils se plaindront des impôts. Les plus bavards médiront de leurs voisins de village. Les plaisanteries brutales, les attouchements hardis des jeunes assailleront les filles et les femmes. Lutinés déjà par les coups d'œil obliques, et les propos sournois des vieux, pareils à des faunes. Puis, la dernière bouchée avalée et la dernière gorgée bue, tous s'étendront, face au ciel, le mouchoir sur le visage. C'est l'heure de la méridienne. Le silence solennel règne de nouveau sur la campagne en feu. Chapitre 2. La ferme s'apercevait à l'est du plateau, au-dessus du village enfoui dans un repli de terrain, à l'abri de la colline. Elle avait un aspect de forteresse. De longs murs de pierre grise l'entouraient tout entière d'un rempart. La ressemblance se complétait par une absence presque complète d'ouverture. La porte charretière ne s'ouvrait que pour le passage des lourds chariots, et quelques étroites embrasures, pareilles à des meurtrières, éclairaient et aéraient les écuries et les greniers à foin. Le mur rébarbatif pesait sur la terre et barrait le ciel de sa ligne hostile. Au-dessus de sa crête apparaissait un toit de tuiles, qui était le toit de la maison d'habitation, et la tour cylindrique d'un pigeonnier, coiffée d'une couverture conique de tuiles roses. Le toit de cette maison et cette tour de pigeonnier déployaient des images vivantes au-dessus de la massive barrière de pierre. De la cheminée sortaient des fumées légères qui prenaient la couleur du jour, rose d'aurore, dorée de soleil, bleu de soir. La tour cylindrique était sans cesse entourée du vol claquant des pigeons, vol capricieux en ligne droite, en cercle, en spirale, qui s'en allait parfois décrire ses arabesques vers tous les lointains du paysage, mais qui s'en revenait toujours, familier et fidèle, s'enrouler, se resserrer autour du toit pointu, puis se reposer, pour se dévider encore à travers l'espace. Ou bien l'on voyait les pigeons perchés sur les gouttières, marcher sur un rebord en gonflant le jabot, allongeant et reculant la tête du même mouvement saccadé, entrer et sortir par les planchettes de leur nid comme les abeilles d'une ruche. Cette vie aérienne avait son équivalent à ras de terre, dans la cour de la ferme. La porte ouverte, on se trouvait dans le monde emplumé, jacassant, criard de la jante volatile, monde bigarré extraordinaire, perpétuellement occupé à gratter le sol de la patte et du bec, à courir su à tous les vermisseaux, à se disputer la miette et la graine. La bataille alternait avec la mangeaille, et cette mêlée d'oiseaux faisait songer à un choc de races et d'armées, tant il y avait de différences de physionomie, de couleur, d'allure, entre tous les êtres emplumés qui se trémoussaient sur l'air. Les coqs, à la crête rouge insolente, aux plumes bariolées, se dressaient en victorieux parmi les poules rapaces, toujours en quête vers le sol. Les dindons prélassaient leur omnipotence. Les pintades allongeaient leur cou et leur tête de reptile pour prendre leur part de festin. Puis couraient au hasard en jetant leurs cris abominables d'assassinés. Les paons balayaient le sol de leurs lourdes robes constellées des mots verts et bleus, et s'en allaient à tout instant du jour s'admirer aux morceaux de miroir fixés pour eux à la muraille. Des poussins, nouvellement éclos, gardaient encore la forme d'œufs auxquels serait venu un peu de duvet jaune, une tête et deux pattes. Des canards se frayaient passage avec un mouvement de roulis et ramassaient tout ce qui traînait, d'une seule cuillerée de leur bec en forme de spatule. Des oies, blanches comme des statues de neige, dressaient leur robuste col, regardaient au loin, prononçaient des discours que personne n'écoutait. Parfois, tout ce monde s'arrêtait de chercher, de picorer, d'avaler, de se battre, de crier, et tous les becs et tous les yeux se tournaient vers les nuages. C'est qu'un grand bruit d'ailes avait traversé l'espace, qu'une cohorte d'oiseaux migrateurs s'avançait en triangle, pattes repliées, ailes étendues, jetant sa clameur dans le vent. Ou bien, quelque bête de proie, quelque épervier suspendu, immobile, tout en haut du ciel, paraissait choisir, parmi les hôtes de la basse-cour inquiète, la victime sur laquelle il allait se laisser tomber. Ou encore, un oiseau de mer, blanc et gris, goéland ou mouette, égaré par les terres, planait et tournait, les ailes obliques, à croire qu'il cherchait une issue, puis tout à coup s'enfuyait vers le large. Il y avait, à la ferme des Gilquin, bien d'autres formes de la vie animale, les bêtes de labour et de rapport, les chevaux, les bœufs, les vaches, les veaux, les porcs, les moutons. Ce n'était que hennissement, beuglement, grognement, bêlement, passage des bêtes lentes destinées à la charrue ou allant au pâturage, trottinement des troupeaux harcelés par les chiens. Au long des murs, des cages grouillantes de lapins laissaient apercevoir les mines songeuses, les bonds furtifs des bêtes curieuses et craintives. Le personnel était nombreux. Garçons de ferme, bergers, porchères, vachers, domestiques d'habitude ou journaliers de passage. C'est dans ce milieu que naquit, vécut et mourut Hermène Gilquin. Chapitre 3. Après 20 ans de mariage, Madame Gilquin eut la surprise et la joie de voir enfin ses vœux accomplis. Elle eut un enfant. Cet enfant, elle avait passionnément, ardemment désiré que ce fût une fille. Son bonheur se trouva donc à son comble, car elle donna à son mari, qui partagea sa félicité, une petite, toute petite fille, délicate, mignonne, blanche, avec des yeux bleus, que l'on nomma Hermine. Les Gilquin étaient considérés, avec raison, comme les plus riches propriétaires de la région. Autour de la ferme, et au loin, 600 arpents de terre représentaient leur fortune. On les enviait. Mais en même temps que l'envie, la malice villageoise s'était donné cours, avait découvert le défaut, la tare de leur vie. Comme beaucoup de campagnards, les Gilquins avaient un sobriquet. Ils étaient, pour tous ceux qui vivaient à 10 lieues à la ronde, le père et la mère, la guigne. Ainsi avaient-ils été surnommés de père en fils. Toute la famille semblait née sous une mauvaise étoile. On disait communément des Gilquins qu'ils payaient cher leur richesse. En dehors de cette richesse, la chance ne les avait jamais visités, et leur gain des marchés et des foires ne pouvait leur faire oublier les pièges et les catastrophes de la vie. Les malheurs de tout genre, les pires calamités, les avaient toujours assaillis. Des maladies, des accidents, des morts violentes, des incendies, la foudre tombant sur leur maison, l'orage dévastant leurs moissons, les avaient souvent désespérés, les avaient rendus humbles et craintifs devant le destin. Toutefois, depuis que Pierre Gilquin avait épousé Simonette Ancelot, nièce d'un curé des environs, la guigne semblait les avoir quittés pour toujours. Les bonnes gens disaient que le bon Dieu de monsieur le curé avait mangé la guigne des Gilquins. Et cela était vrai. En peu de temps, Pierre Gilquin avait connu non seulement la prospérité complète, mais le bonheur tranquille. Désormais, son surnom n'avait plus de raison d'être, mais on continuait à l'employer par habitude. Et puis, la malchance pouvait revenir. Les Gilquins avaient donc tout pour être parfaitement heureux, parmi leurs bêtes et leurs serviteurs, tout, sauf un enfant à dorloter et à élever. « Un restant de Dévennes, disait-on. Quand Hermine vint au monde, ce fut comme l'assurance que le malheur avait à jamais fui de chez les Gilquins. Tout se passa bien, en effet. Hermine ne fut atteinte par aucune des maladies fréquentes au bas âge. Quand elle ouvrit les yeux sur l'existence et qu'elle commença à voir et à désigner les choses, quand elle parla le premier langage, puéril et doux comme un gazouillis d'oiseau, elle se révéla ce qu'elle devait être au cours de sa vie. Douce de caractère, vive d'intelligence, infiniment sensible, prompte à se replier sur elle-même, gardant un léger effroi de ce qui l'avait heurté. Il se passait en elle un phénomène de rétraction. Hermine était bien, en effet, une Hermine, au sens où la tradition populaire s'est imaginé le petit animal des solitudes, ayant la crainte et l'horreur de tout ce qui peut tacher son pelage, souffrant et mourant de la fange qui l'éclabousse. La petite fille, tard venue dans la vie de ses pères et mères, était un objet délicat et précieux qu'il fallait sauvegarder, et qui avait lui-même l'instinct de se préserver des contacts hostiles, des rencontres dangereuses. Toutefois, on eût dit que la nouvelle arrivée avait immédiatement deviné qu'elle était chez elle, parmi les allées et venues de la ferme, au milieu des êtres de tout genre qui peuplaient la cour et les étables. À peine née, sur les bras de sa mère ou d'une servante, elle contemplait avec un plaisir visible, de ses yeux qui venaient d'éclore, les lourdes bêtes qui tournaient la tête vers elle en s'en allant au champ de leurs pas réguliers et machinal. Plus tard, ses petites mains allaient d'un geste caressant vers les fronts durs des vaches et des chevaux, vers la laine des brebis, vers le poil rêche des chiens de troupeau. Ceux-ci couraient autour d'elle lorsqu'elle était assise sur sa petite chaise à l'ombre du mur, s'approchaient, la léchaient, jouait avec elle en prenant de visibles précautions, montrant qu'il savait avoir affaire à un enfant qui ne peut souffrir de trop rudes caresses, la traitant comme un agneau nouveau-né qu'il faut encourager au premier pas de la vie. Les oiseaux, à demeure dans la vaste cour, furent bien vite aussi en familiarité avec la petite fille. Coq, poule, dindon, oie, canard, pintade, pigeon, s'en venaient picorer, criailler, se disputer auprès d'elle, sans rien redouter de cette camarade si tranquille, tombée un beau matin dans leur basse-cour. Et Hermine non plus n'eut pas peur de toute cette vie emplumée, qui gloussait, caquetait, roucoulait du matin au soir, et qui paraissait répondre à ses derniers bégaiements et à ses premiers bavardages. Ce qui pouvait la choquer, c'était un geste trop brusque, une voix trop rude. Sa physionomie alors se contractait, une angoisse s'avouait par ses yeux chagrins et sa bouche tremblante. Mais on la rassurait vite par une bonne parole, et cette première enfance d'Hermine fut heureuse dans cette cour de ferme, qui lui parut semblable à un paradis terrestre. Au jour où elle sut lire et écrire, et qu'elle eut entre les mains un catéchisme et une histoire sainte. Sa mère fut sa première éducatrice, pour veiller le plus longtemps possible sur une santé qui lui paraissait fragile. L'écolière acquit sans effort ce qui fut ainsi offert à son intelligence en éveil. Presque tout de suite, elle en sut autant, et bientôt elle en sut davantage, que son institutrice improvisée. La lecture lui conféra le pouvoir magique de deviner quelque chose de ce dont elle ne connaissait rien. Par brusques éclairs, les choses lui apparaissaient subitement, à lui faire croire qu'elle les avait toujours vues. Elle se montrait à la fois curieuse de tout et familière avec tout. Elle vécut ainsi naïvement les plus charmantes, les plus délicieuses journées de découverte du dehors, de création d'elle-même. En elle s'épanouit le bonheur ignoré de l'ingénuité. Chapitre 4. On la mit alors en classe dans la petite école du village. Faisant de rapides progrès, toujours la première, elle était une petite fille sage et appliquée, pétrie de bonnes dispositions. Lorsqu'elle eut 10 ans, et qu'elle fut définitivement jugée bien portante, sa mère la retira de l'école et la mit en pension à la ville voisine. Elle apprit le piano, le chant et la danse. « Ce sera une distraction pour elle plus tard, » disait Madame Gilquin. « Une paysanne peut bien posséder des arts d'agrément pour se reposer du travail. » Hermine apprit aussi facilement ces arts d'agrément qu'elle avait appris les premiers principes de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, de la grammaire. Elle aimait la musique et les livres. Elle avait la voix juste et jolie. Un sentiment poétique se développa en elle. Elle voyait ce qui existait avec un ravissement des yeux et une délectation de l'esprit qui surprenait tout le monde. Elle ne devint pas pour cela une prétentieuse de pensionnat. Son goût était fixé à ce qui était naturel, à ce qu'elle apprenait et concevait directement. Aussi, bien qu'elle ne montrât jamais d'ennui à la ville, les plus grands plaisirs de son temps d'études furent les vacances. Quand elle revenait à la ferme à la fin de juillet, elle se retrouvait à sa vraie place et découvrait qu'elle était foncièrement paysanne. Son habitude des animaux s'était changée en un vif amour de toutes ces formes de la vie qui sont encore à demi plongées dans la région obscure des sensations mal formulées. Il y a de l'irritation et de la douleur dans les mouvements et les cris des bêtes qui veulent se faire comprendre. Hermine se pencha vers ces ténèbres, et bientôt sa volonté et sa patience lui firent entendre ce que s'acharnaient à dire toutes ses voix rauques et aiguës et tous ses yeux plaintifs et brillants. Aux vacances, la fillette était une petite reine attendue par tous et qui rentre dans son domaine. Les survivants de l'année précédente lui faisaient fête. Les chiens qui accouraient, ivres de joie au-devant d'elle, les vaches qui l'adulaient de leurs regards de velours et de leurs mélancoliques meuglements, les chats qui l'appelaient de loin de leurs miaou pleurards en se frottant nerveusement aux murailles, et tout le poulailler qui se précipitait d'un seul mouvement comme une armée multicolore au rang pressé. Ce qui était né dans l'année venait aussi, prévenu sans doute par les anciens. Et d'ailleurs, Hermine avait vite fait de les connaître et de les apprivoiser. Ces jours de vacances, de la fin de juillet au commencement d'octobre, et aussi les vacances plus courtes, de Pâques et d'autres jours de fête, restèrent à jamais délicieux dans le souvenir de la jeune fille. À 16 ans, Hermine revint définitivement chez les siens. Sa mère, alors, s'appliqua à faire d'elle une bonne ménagère. Elle trouva sa fille docile, heureuse de rendre service, parfaite en tout point, acceptant tout des nécessités de la maison paysanne, se levant de bonne heure, préparant le repas de ses parents et des travailleurs qui allaient au champ. Pour la récompenser, on lui acheta un piano, et elle fit, par sa musique et sa voix, l'admiration de ceux qui venaient l'entendre. Elle fut autorisée aussi à fréquenter le bal. Les jours de fête, conduite par sa mère et accompagnée d'amis, ayant confectionné elle-même une simple et jolie robe, elle était heureuse de quelques tours de valse. On attendait toujours son entrée dans la salle de bal. « Mamselle Hermine doit venir. Paris, qu'elle sera la plus belle de toutes !» En effet, Hermine entrait, petite, mince, ses cheveux châtains coiffés en bandeaux, de vives couleurs de jeunesse aux joues, ses grands yeux bleus très doux regardant les gens avec bienveillance, habillée d'une robe de mousseline blanche ornée de rubans bleus. Et vraiment, elle était une apparition de candeur charmante, la petite vierge de la contrée. La vie semblait donc s'annoncer pour elle, toute remplie de jours paisibles et de joie. Le fils d'un riche fermier du voisinage fréquentait la maison des Gilka, s'occupait galamment d'Hermine. On supposait qu'à son retour du régiment, le mariage aurait lieu. Un jour, à table, quelqu'un en parla devant tous les travailleurs des champs rassemblés pour le repas du soir. Le père, la mère et Hermine même ne dirent pas non. Mais le lendemain, qui était un 1er janvier, il y eut une affreuse alerte à la ferme et un terrible coup qui frappa les Gilka. Chapitre 5. On trouva pendu, au grenier où il couchait d'habitude, un des bons ouvriers de la ferme. C'était un garçon de 20 ans. Auprès de lui, il y avait un papier avec ses 2 lignes au crayon. « Je m'en vais parce que mademoiselle Hermine est trop haute pour moi et qu'elle ne m'aimera jamais. » Hermine sut tous les détails de cette mort et on lui montra l'écrit. Elle le prit et, machinalement, très affligée de cette mort à cause d'elle, mais dont elle n'était pas la cause, elle mit l'humble et funèbre billet dans un petit coffret où il y avait des images, des lettres de parents, d'amis de pension, et des petits carnets où elle écrivait parfois des choses qu'elle ne disait pas, et qui étaient les confidences qu'elle se faisait à elle-même. Chapitre 6. Ce fut le commencement. Il y eut une suite. Quelques jours après, Pierre Gilquin, revenant tard de traiter une affaire, s'était endormi dans sa voiture. Il faisait nuit noire. Les chevaux, n'étant plus dirigés sur une route qui leur était inconnue, entrèrent dans une grande mare. La voiture chavira et Gilquin se noya, passant presque sans le savoir du sommeil à la mort. Le mauvais sort était revenu. Cette année-là, chez tous, la récolte passa les espérances. Seule la ferme des Gilquin eut à supporter des désastres. Il y eut une épidémie sur les bestiaux, une autre sur les volailles. On ramassa un peu partout des pigeons morts qui s'étaient envolés lourdement du pigeonnier des Gilquins, comme fuyant une atmosphère de pestilence. Plus de cercles vivants et joyeux autour de la haute tour. Plus rien que les tristes fumées sortant des cheminées et s'évanouissant dans le dur ciel de l'hiver. Le bruit courut alors que les affaires de la veuve tournaient mal, et que, si cela continuait, les terres ne pourraient rester sous l'empire de ses mains débiles. Les choses, pourtant, allèrent ainsi des semaines et des mois, et la vie sembla recommencer, animer de nouveau les vieilles pierres, les champs toujours reverdissants. L'année suivante, le temps de son deuil terminé, Hermine fut conviée par une amie de pension à assister à son mariage. C'était la première sortie de la jeune fille depuis la mort de son père. Lorsqu'elle parut, il y eut dans l'assemblée comme une petite émotion, un frisson presque imperceptible, et même quelques personnes entre elles se communiquèrent instinctivement leurs sensations. « Voilà Hermine » dirent-elles. « On va arriver quelque malheur !» La petite vierge, autrefois choyée, était devenue un trouble fête. On était au plein de l'été. Le déjeuner et le dîner devaient avoir lieu sous une tente. La journée se passa bien. Le soir, un peu avant le dîner, quand tous les invités cherchaient autour des tables la désignation de leur place, la tente prit feu. En une minute, tout fut en flammes. Des enfants s'étaient amusés à tirer des pétards. Une étincelle avait mis le feu à de la paille sèche amoncelée tout près de la toile, et la tente avait brûlé. Tout le monde, heureusement, put sortir du brasier. Hermine fut la seule atteinte. Sa robe fut brûlée. Son corps fut couvert de plaies. Seul son visage resta indemne sous ses deux mains dont elle s'était protégée d'un geste instinctif et qui furent marquées par les flammes. Sa mère la sauva en jetant sur elle son châle. Elle dut garder le lit pendant plusieurs jours. Il n'y avait plus à en douter. Hermine, à sa naissance, avait rapporté avec elle les fléaux disparus. Chapitre 7. Elle n'eut plus d'amis. Dans aucune compagnie, personne n'eut le courage ou la pitié de l'accepter. Les prétendants s'éloignèrent. Ce fut le vide autour d'elle. Madame Gilquin songeait au bonheur passé, aux joies éphémères de la vie. Les deux femmes ne se quittaient plus, supportant ensemble leur découragement et leur tristesse. Cependant, malgré tous les souvenirs et tous les présages de malheur qui pesaient sur les Gilquins, un garçon du pays, nommé François Jarry, se présenta pour épouser Hermine. « Je n'ai rien, qu'est-ce que je risque ?» dit-il en rigolant à ses camarades qui s'étonnaient de sa démarche. Il était d'un village voisin, il revenait de faire son temps de militaire et n'avait en effet aucun bien. Mais sa famille avait réputation d'honnêteté, et Hermine accepta sa demande, pressée par sa mère, qui s'affolait de leur solitude et de leur faiblesse, et qui voyait que la ferme, mal tenue, avait besoin de retrouver un maître. Sans amour, mais sans répulsion, Hermine se maria donc. La noce fut triste pour elle, et personne d'ailleurs n'y apporta d'entrain, tant le deuil pesait sur la maison. Le nouveau patron s'installa. Chapitre 8. Hermine ne connaissait pas l'homme auquel elle venait de se confier. Sa jolie intelligence n'était encore qu'une intelligence de petite fille, seulement assombrie par la mort de son père. Rien d'étonnant à cela. La divination qui se manifestait si souvent en elle devait, par la fatalité ordinaire des événements, lui faire défaut pour la crise la plus grave de son existence. Le savoir profond de la vie ne peut s'acquérir qu'avec la vie. Hermine en était encore à la période d'ignorance, et elle tomba sans hésitation dans le piège que la nécessité venait de lui tendre. Elle crut accomplir un acte ordinaire et accepter un avenir monotone, alors qu'elle venait de jouer son sort et de s'offrir en victime au destin. Le ménage ne fut pas longtemps à se dissoudre. Il ne pouvait en être autrement. Les deux êtres qui venaient d'associer leur vie, l'un par calcul, l'autre par lassitude, n'avaient aucune espèce de ressemblance, ni physique, ni morale. De premier aspect, François Jarry n'était pas laid. Il avait la face jeune, les traits réguliers, le nez et le menton bien dessinés. Des moustaches de soldat qui se retroussaient sur une bouche souriante, des yeux gais et gentils. Mais cette tête de jeune homme surmontait un corps terrible. Le col, les épaules, les bras, le torse, les jambes, les mains, les pieds, prirent chaque jour davantage un aspect plus monstrueux. Cet être, petit, trapu, d'une force extrême, avait de carrure et de tournure un aspect d'animal debout, affublé de vêtements d'homme. Peu à peu, une chair dense l'envahit, augmenta son encolure, envahit le bas du visage et les joues. François Jarry n'engraissait pas, mais il épaississait, se musclait à la façon d'un lutteur. Il mangeait comme quatre, parce qu'il travaillait comme quatre, toujours levé le premier, couché le dernier, attentif aux champs et aux bêtes, chargeant et déchargeant les charrettes, renvoyant impitoyablement les incapables, les paresseux, ou ceux qui lui paraissaient tels. Dur pour lui-même, il était dur à tous. L'homme, autrefois besogneux, travaillant chez les autres, avait pris tout de suite goût à la propriété, se jetant avec avidité sur ses terres, qui furent à lui du jour au lendemain, en même temps qu'Hermine. Mais d'Hermine, il n'avait cure. Quoiqu'elle fût la cause de sa prospérité subite, il n'eut pas un instant l'idée qu'il pouvait lui devoir quelque reconnaissance de son changement de fortune. De plus, le travail des champs seul comptait pour lui, et il regardait comme une fainéante la femme attentive qui dirigeait la maison, surveillait la cuisine et le linge. Cette chétive jeune fille n'inspirait de toute façon que du mépris à ce mauvais drôle, qui avait fait la noce sordide des villes de garnison. Il fallait l'épouser pour avoir les terres, il l'avait épousée, et voilà tout. Il avait joué la comédie par ruse naturelle avant le mariage, se faisant tranquille et patelin, donnant l'idée d'un paysan placide et bonasse à ses deux femmes, la mère et la fille, qui ne virent pas la lueur de dur acier allumée parfois dans ses yeux demi-clos, ni le rictus cruel de sa bouche, ni les dents de loup affamées que cachait sa moustache. Son allure se modifia du soir au matin. Au lendemain du mariage, quand il revint de faire le tour de son nouveau domaine, c'était vraiment ses vraies épousailles de paysan avec la terre qu'il venait de célébrer. Il rentra chez lui en maître, rudoya immédiatement Hermine pour la mettre à son rang secondaire, répondit grossièrement à Madame Gilquin, laquelle s'était permis d'intervenir. Au courant de la même journée, il réprimanda avec la dernière violence un domestique peu empressé à obéir à un ordre, et celui-ci ayant répondu sur le même ton, le nouveau maître fonça sur l'insoumis à la manière d'un taureau qui voit rouge, et, d'un coup de tête en pleine poitrine, l'envoya rouler sur le chemin. Il y eut une stupeur. Puis, sous le regard méchant de la brute victorieuse, le silence et la soumission de toute la maison. Changeant de situation et dévoilant son caractère, François Jarry changea aussi de physionomie. Son visage aux traits réguliers devint atroce. La ruse même s'effaça pour laisser leur libre déploiement aux instincts. Les yeux paraissaient vouloir tuer ce qu'ils regardaient comme hostile et gênant. La bouche s'ouvrait sans cesse d'un mouvement de morsure. Les mains énormes et velues se crispaient en pattes d'animal féroce. C'est dans ces pattes qu'était tombée la délicate Hermine. Chapitre 9. Elle ne savait pas tout encore du personnage auquel elle avait lié son sort, mais elle n'eut pas longtemps à attendre. François Jarry, qui s'était affirmé si vite, hargneux et brutal, se révéla bientôt, par surcroît, buveur et coureur. Ses dimanches se passaient au cabaret, où le vin et l'eau-de-vie faisaient flamber ses colères. Au logis, il vécut sans gêne, en parfait goujat. Les servantes qui voulaient garder leur place devaient accepter les honteuses conditions du nouveau maître, qui, entre les quatre murs de sa ferme, agissait en chef de tribu. Ce rustre était né vicieux. Maintenant qu'il avait satisfait son goût inné de paysan, sa passion de primitif pour la terre, il laissait prendre ses aises à sa grossièreté. Il révélait sa nature double de rustique intéressé et de coureur de mauvais lieux. Il restait méfiant et avare, et il avait des poussées subites d'instinct qui le rendaient par moments l'esclave de l'alcool de l'auberge, de la bestialité sensuelle d'une fille de ferme. Hermine, née sensitive, affinée encore par la maladie et par la douleur, ne comprenait pas cette vie si différente de sa vie de famille. Elle osa se plaindre doucement. « Si tu n'es pas contente, je te retiens pas. T'as qu'à ficher ton camp d'ici. » Telle fut la réponse. « Mais je suis chez moi ?» objecta naïvement Hermine. Une gifle envoyée à toute volée lui meurtrit la figure. Et désormais, pour le moindre prétexte, ce furent des cris, des insultes qui allaient jusqu'au cou. Plusieurs fois, la femme battue et effrayée dut s'enfuir de chez elle, sa mère impuissante à la protéger, et se réfugier près des meules où elle passait la nuit. Elle n'arrivait pas à juger ce qui lui arrivait. Elle roulait mille projets confus dans sa tête, ne sachant à quelle partie s'arrêter. Songeant bien à s'enfuir, n'importe dans quelle direction, vers une ville où les gens peut-être l'auraient protégée, vers la mer où il se trouverait sûrement un navire pour l'emporter au loin dans un pays inconnu, qu'aurait été pour elle le pays de l'oubli. La pensée de sa mère la retenait. Elle passa ainsi, hors de chez elle, des heures sinistres. Ses vêtements furent traversés par la pluie. Elle avait peur de tous les bruits qu'elle entendait, cachée dans la paille, anxieuse de la première clarté de l'aube pour rentrer à la maison, au moment où son mari venait d'en sortir pour commencer le travail du jour. Chapitre 10. Elle eut un enfant de ce misérable homme, un petit garçon qu'elle nomma Jean, du nom du malheureux qui était mort de désespoir pour elle. Elle prit ce nom instinctivement, comme elle avait mis le morceau de papier dans son coffret, où il était toujours. Pendant ses couches, sa mère la soigna à travers mille difficultés. Les deux femmes ne semblaient plus être chez elles, n'obtenaient rien de ce qu'elles demandaient, rudoyées par le maître, moquées par les servantes. Pendant qu'Hermine était encore au lit, son nouveau-né auprès d'elle, elle fut frappée au visage par ce Jarry, ce passant qu'elle avait accepté et installé chez elle. De grosses larmes ruisselèrent sur ses joues, tombèrent sur l'innocent blotti contre son sein maternel. L'enfant, né parmi ses frayeurs et ses peines, mourut. Le ménage devint un enfer. François de plus en plus brutal, Hermine de plus en plus abîmée dans le chagrin et l'inquiétude. Sa gentille beauté, peu à peu, avait disparu. Elle n'était plus que l'ombre chétive de son passé. Son mari eut alors la lubie de prendre chez lui une fille de sa sœur, l'aînée de 9 enfants, Zélie, âgée de 11 ans. Hermine crut avoir trouvé un être à aimer et qu'il aimerait. Elle s'attacha la fillette par des gâteries, sut lui plaire par une bonté prévenante que ne connaissait pas cette petite pauvresse. Hermine l'aima comme une gentille sœur retrouvée, ou comme une fille dont elle aurait été séparée et qui serait revenue à la maison. Il lui sembla que c'était un peu de joie qui entrait chez elle. Pourvu qu'il ne lui arrive pas quelque malheur, quelque accident, songeait-elle en son triste cœur au souvenir de la malchance qui sévissait sur tout ce qui l'approchait. Ce fut encore elle que la malchance choisit pour victime. Brusquement, la reconnaissante et affectueuse Zélie devint sournoise et méchante. Son caractère fléchit du fait des scènes violentes auxquelles elle assista. De voir ainsi traiter Hermine, elle conçut d'elle une piètre idée, se mit du côté du plus fort. Elle devint l'espionne de son oncle auprès de la malheureuse femme, rapportant à faux les actes et les paroles d'Hermine, la desservant auprès de tous et de toutes. L'enfant aux instincts lâches devina la timidité de sa bienfaitrice, se ligua avec tous ceux qui s'acharnaient contre elle. Chapitre 11. Vivant ainsi, Hermine, peu à peu, se replia sur elle-même, devint absente de l'existence qui lui était faite, n'attendant aucun bien, insensible au mal. N'ayant rien où se raccrocher, elle se laissa aller à une torpeur maladive, à un désespoir morne. Peu à peu, elle sembla pareille aux choses. Elle fut une parcelle de cette nature qui déployait autour d'elle ses spectacles indifférents. Tout au long de l'année, elle paraissait assister machinalement à la succession des heures, au renouvellement des saisons. Elle n'était pas devenue insensible, pourtant. Et plus tard, on trouva dans la petite boîte où elle gardait ses cahiers d'école et ses lettres d'amis, quelques pages où elle avait écrit, un peu comme des compositions de style, ses sensations devant le déploiement merveilleux de l'existence. Chapitre 12. Au printemps, elle sent qu'il lui arrive la tiédeur de l'air, qu'elle est environnée du doux réveil de la vie. Et, d'une écriture posée, elle aligne les phrases de cette brève description. Le printemps. La nature se réveille, elle semble s'étirer, elle sort de sa longue torpeur hivernale, elle va renaître. Voici le jeune printemps, il est né. D'un coup de sa merveilleuse baguette magique, il remet à neuf tout l'univers. Le soleil revient, plus brillant, plus riant. Il va rester longtemps avec nous, nous conviant à ses fêtes. La terre donne tout ce qui est en elle. Un hymne continuel monte dans l'espace. Tout chante dans les buissons et dans les bois. L'herbe pousse, l'arbre verdit, les fleurs vont éclore. L'insecte butine, chaque coin est un nid. L'oiseau roucoule des mélodies d'amour. La cloche de l'église tinte plus divinement dans l'air léger. Les chemins sont plus doux, le ruisseau est plus clair, le ciel est plus bleu. L'air est tout embaumé par quelque chose d'inconnu, une brise qui vient de loin, qui a passé sur la mer et qui apporte le parfum des îles. Les matins sont gais et les soirs aussi sont joyeux parce qu'ils annoncent, avec toutes leurs étoiles, la clarté du lendemain. Les nuits illuminées sont traversées tout à coup, quand tout dort dans le silence, par le chant du rossignol. Dans la feuillée, le petit oiseau invisible chante sa joie d'un instant, à faire croire qu'il pleure, qu'il s'évanouit, qu'il va mourir. Le crapaud aussi, dans l'ornière, soupire quelque chose d'une petite voix timide, toujours la même note de cristal. On dirait qu'il veut répondre au rossignol et qu'il souffre de ne pouvoir faire monter sa plainte jusqu'à cette magnifique voix. Le grillon fait entendre sans arrêt sa cliquette. Les grenouilles bavardent autour de la mare. Ils sont tous à leur poste, nos compagnons printaniers. Ils vont vivre comme nous, heureux, puis malheureux. Le printemps, c'est l'enfance avec tout son espoir. Il est éphémère, mais il reviendra l'an prochain. Nous seuls ne reviendrons pas, mais d'autres reviendront. Bonjour donc au printemps et à tous les futurs printemps. Chapitre 13. Lorsque vint l'été, Hermine, éblouie par la magnificence du ciel et de la verdure, compose une sorte d'hymne à la beauté splendide qui rayonne sur la terre et au ciel. Seconde narration qu'elle confie à son cahier d'écolier. L'été. C'est le vaste grenier d'abondance de la terre. Toutes les richesses enfermées se montrent une à une. Les plantes paraissent, s'épanouissent comme des enfants joyeux, grandissent vite et travaillent. Voici des fleurs, bientôt des fruits. Les bestioles s'envolent ou cheminent. L'herbe est remuante d'insectes et les feuillages sont remplis d'oiseaux. La campagne est le grand paradis où toute liberté règne. L'homme se réjouit et il lutte contre l'envahissement de la nature. Dès l'aube, sur son champ, le dos courbé, les mains actives, il arrache les mauvaises plantes qui prennent la place de la future moisson. Il songe à sa récolte. Il a laissé son fusil accroché à la cheminée et son chien dort à l'ombre de la haie. Il n'a, pour défendre ses graines et ses fruits à peine formés, que de vieux chapeaux et de vieilles loques dressées sur des piquets et qui s'agitent parfois sous la brise. Bientôt, tout est immobile. Le soleil concentre ses rayons sur le sol crevassé. Plus d'air, c'est le feu qui règne, la grande cuisson qui commence. Les après-midi sont lentes et lourdes, envahies par un sommeil de fièvre. L'écorce et les épis sèchent, craquent, rôtissent. Il faut la pluie d'un orage, la pluie large et tiède, pour rendre la force à ce qui est mourant sous la brûlure du ciel. Après la pluie, les feuilles reverdissent, les fleurs refleurissent, les racines cachées dans la terre humide boivent avec avidité. Et le soleil revient encore pour faire le blé gonflé de farine, le raisin vermeil, les pêches pareilles à des roses. C'est la fin. Plus la beauté aura été rayonnante, plus la maturité sera sèche et fanée. Après la flamme qui consume, il n'y a plus, dans les champs et dans les vergers, que des squelettes calcinés. La terre est fatiguée d'enfanter. Elle a donné tout ce qui était en elle. Elle veut se reposer, au dernier rayon de l'automne, avant d'entrer dans la nuit de l'hiver. L'été s'en va, comme une mère féconde à bout de force, qui laisse ses enfants continuer la vie. Chapitre 14. En octobre, Hermine laisse aller sa rêverie au cours de la lumière ralentie. Elle regarde les dernières couleurs, respire les derniers parfums, voit tout décroître pendant qu'elle décroît aussi. Elle respire l'automne, elle goûte sa saveur funèbre, et elle essaie de dire les premiers frissons et les derniers désirs de toute chose. L'automne. L'automne est venu. Il a succédé au vert printemps, à l'été bleu et doré. Lui, il est jaune et rouge. Il est magnifique de couleur et tout remué de vent. Mais il a déjà l'odeur de la mort. Il annonce pour bientôt le grand sommeil de la terre. La nature semble attristée par sa future destinée. Les arbres sont en mouvement, tout encolérés sous la brise, ou bien restent immobiles et résignés, comme s'ils abritaient des tombes. La campagne, parée de sa beauté dernière, n'a plus rien des grâces de sa jeunesse. Elle déploie, en revanche, tous les charmes de son épanouissement. Elle nous convie à sa fête suprême. Le dernier parfum de tout ce qui a vécu se concentre. C'est un baume consolateur qui m'enivre, me console de m'en aller avec tout ce qui va disparaître. Le soleil, qui a fait se multiplier les germes et jaillir à profusion les jeunes pousses, semble lui-même fatigué d'avoir ainsi brûlé la terre. Il ne la regarde plus que de loin. Il ne se hausse plus qu'à grand-peine au-dessus de l'horizon. Les animaux, comme les plantes, éprouvent les terribles effets de son abandon. Oiseaux légers, chétives insectes, les jours, les soirs et les nuits vont devenir rudes pour vous. Finis vos danses capricieuses dans un rayon de soleil, vos courses éperdues à travers l'infini bleu. Du soir jusqu'à l'aube, un brouillard épais paralysera vos ailes, un frisson vous envahira. La vie se débattra en vous, mais la mort méchante emportera sans scrupule votre dernier effort. Partez sans regret, petits êtres qui avez eu un instant de joie. Partez sans regret, car tout ce que vous avez connu et aimé va s'effacer aussi du livre de la vie. C'est le sort de tout ce qui a partagé la gloire de vivre, de tout ce qui a eu un printemps et un été. Hermine a eu un printemps puisqu'elle a été une petite fille comme les autres, mais elle n'a pas eu d'été. Elle n'a pas vécu auprès d'un homme pareil à elle. Elle n'a pas eu d'enfant à chérir. Hermine a été une fleur qui ne s'est pas changée en fruit. Et aujourd'hui, elle n'est plus qu'une feuille sèche, pareille à toutes les feuilles sèches de l'automne. Chapitre 15. L'hiver venu, Hermine connaît les jours sans lumière et sans chaleur, la vie restreinte, le silence de la neige, l'hostilité de l'espace. Tout de même, en décrivant la triste saison, elle ne peut s'empêcher de songer aux printemps qui viendront encore. L'hiver. L'hiver, c'est le grand cimetière des résurrections futures. Tout est isolé, abandonné, mort. C'est le sommeil profond enfoui sous la neige, pendant que font rage au dehors la bise qui mord, le vent qui glace. La feuille qui paraît survivre est confite dans le givre. Les lignes d'arbres sans verdure semblent des défilés de condamnés au bûcher. Les oiseaux se sentent perdus, enfermés par cet horizon de fer. Ils hésitent à parcourir l'atmosphère obscure. Ils n'osent planer au-dessus de ce désert stérile. L'insecte, s'il a pu se sauver à temps, s'est retiré du monde. Il chemine sous terre, ou bien il dort. Tout est sans couleur, de la même teinte morte. C'est la planète d'autrefois, la terre avant la venue de l'homme, avant l'organisation des éléments. Le soleil ne se montre que masqué de brume. Caché, au loin, il délaisse et raille la terre privée de ses rayons. Parfois, il donne quelque éclat au paysage, comme un regret ou une promesse des beaux jours. Mais ces fausses flammes et fausses lumières qui ne font que mieux sentir la rude saison. La rivière, après de longs frissons, s'est gelée. L'eau qui courait hier est immobile. Le bois n'est que squelettes et vertèbres. La mousse est une bave d'agonie. Seule, la maison de l'homme peut être lumineuse et gaie. Le feu pétille, chauffe, rend la force aux corps endoloris. La ouate et la laine remplacent la chaleur du soleil. L'hiver devient l'attente du printemps. On se résigne, près de l'âtre, en espérant le signal de la fête encore lointaine. Avec sa longue barbe blanche, l'hiver marche à grands pas, ne s'arrête en route que pour frapper la vie de stupeur. Partout où il passe, il détruit, il tue. Mais tous les cadavres qu'il fait, il les a purifiés de son souffle rude, il les change en momies, et les momies en poussière. L'arbre mort reviendra à la vie, la sève coulera de nouveau dans ses veines. La terre en catalepsie respirera, renaîtra. Elle réapparaîtra, rajeunie et vigoureuse, comme ces vieilles fées chenues qui se changent en belles princesses. Les vieux seront remplacés par des jeunes, les morts par des vivants. Le grave hiver s'en va comme à regret, revient sur ses pas, ne disparaît complètement que lorsque la nature a retrouvé sa force, chante l'hymne du renouveau. Il fuit alors, laissant la place à tout ce qui demande à vivre et à aimer. C'était ainsi que la femme, restée fillette, vivait dans la solitude de son cœur, exprimait la vie qu'elle n'avait pas vécue.